La fin de l'Empire américain. Là commence l'histoire de l'avenir, a priori imprévisible. Tant de paramètres peuvent influencer son cours, tant de coïncidences peuvent transformer un incident local en épisode planétaire heureux ou malheureux, tant d'acteurs auront leur mot à dire sur la géopolitique, la culture, l'idéologie, l'économie, qu'il semble impossible de répondre à aucune des questions qu'on peut se poser sur le futur, même le plus proche. Les États-Unis vont-ils se retirer sans drame de l'Irak? La paix au Moyen-Orient sera-t-elle un jour possible? La natalité mondiale remontera-t-elle aussi mystérieusement qu'elle a baissé? Le pétrole manquera-t-il dans 20 ans ou dans 50 ans? Trouvera-t-on des énergies de substitution? La misère et les inégalités dans les pays riches seront-elles source de nouvelles violences? Les pays arabes connaîtront-ils un jour un mouvement démocratique comme celui de l'Europe de l'Est? Le Pakistan ou l'Égypte basculeront-ils dans l'islamisme? Les détroits d'Ormuz et de Malacca, par lesquels circule l'essentiel du pétrole du monde, seront-ils obstrués par des bateaux coulés par des pirates? La Corée du Nord fera-t-elle usage de l'arme nucléaire? L'Occident emploiera-t-il la force pour empêcher l'Iran de s'en doter? Un attentat terroriste en Occident fera-t-il plier un gouvernement? Conduira-t-il à la mise en place de régimes policiers autoritaires? Les technologies rendront-elles possibles de nouvelles formes de dictature? Les religions deviendront-elles tolérantes? Découvrira-t-on de nouveaux moyens de venir à bout du cancer, du sida, de l'obésité? La maladie du poulet ou toute autre épizootie sera-t-elle un jour transmissible à l'homme? Une nouvelle religion ou une nouvelle idéologie surgira-t-elle? Les ouvriers hyper-exploités des usines chinoises ou bangladeshis se révolteront-ils? Le cours de la monnaie chinoise va-t-il décupler par rapport au dollar? Le processus d'intégration européenne peut-il reprendre? Les OGM ou les nanotechnologies se révéleront-ils une menace ou une chance? Le climat sera-t-il un jour si dégradé que la vie deviendra impossible sur Terre? Une guerre de religion opposera-t-elle chrétienté et islam? De nouvelles formes de relations sexuelles et amoureuses bouleverseront-elles la morale? Chaque réponse à chacune de ces questions et à bien d'autres orientera les prochaines décennies dans un sens très particulier, vers le pire ou vers le meilleur. C'est d'ailleurs le propre des temps qui viennent. Une instabilité si évidente et une interdépendance si poussée que toute révolte, toute idée neuve, tout progrès technique, tout acte terroriste, tout coup d'État, tout mouvement de masse, toute découverte scientifique pourrait réorienter la direction du monde. En particulier, plus prosaïquement, chacun de ces événements pourrait influer sur la liberté de circulation des idées, des marchandises, des capitaux et des hommes. Et donc sur la croissance, l'emploi et la liberté. Or, ces questions sont si imprévisibles que le nombre des futurs possibles est presque infini. Pourtant, la plupart de ces événements n'auront qu'un impact temporaire sur l'évolution du monde. Car au-delà des problèmes qui semblent aujourd'hui majeurs et qui seront un jour résolus, nous verrons plus loin en détail à travers quelles péripéties, de grandes tendances continueront d'être à l'œuvre, quasi immuables. L'histoire longue, on l'a vu, a obéi jusqu'ici à quelques règles simples. Depuis que la démocratie et le marché sont apparus, l'évolution va dans une direction unique. De siècle en siècle, elle généralise la liberté politique et canalise les désirs vers leur expression marchande. De siècle en siècle, les paysans vont vers les villes. De siècle en siècle, l'ensemble des démocraties de marché se rassemblent en un marché de plus en plus vaste et intégré autour d'un cœur provisoire. Pour prendre le pouvoir sur le monde marchand, pour devenir le cœur, une ville ou une région doit être le plus grand nœud de communication du moment. et être doté d'un très puissant arrière-pays agricole et industriel. Le cœur doit aussi être capable de créer des institutions bancaires assez audacieuses pour oser financer les projets d'une classe créative, mettant en œuvre des technologies nouvelles, permettant de transformer le service le plus envahissant du moment en objet industriel. Le cœur doit enfin être capable de contrôler politiquement, socialement, culturellement et militairement les minorités hostiles, les lignes de communication et les sources de matières premières. Aujourd'hui, tout donne à penser que Los Angeles, 9e cœur de l'ordre marchand, sera encore longtemps capable de remplir un tel rôle. Pourtant, la forme actuelle du capitalisme est soumise aux mêmes menaces que celles qui ont eu raison des formes précédentes. Sa sécurité est en péril. Sa classe créative n'est plus loyale. Les progrès techniques industriellement exploitables y sont de plus en plus lents. L'industrie y est de moins en moins rentable. La spéculation financière de plus en plus effrénée. Les inégalités s'y aggravent. La colère y gronde. Un endettement considérable s'y développe. Surtout, le cœur doute de sa propre volonté de le rester. Un jour, dans 30 ans au plus, cette 9e forme, comme les 8 précédentes, rencontrera des limites. Une fois de plus, le marché jouera contre le cœur. Une nouvelle technologie remplacera d'autres services par d'autres objets industriels. Après l'automobile, les biens d'équipement ménager et les objets nomades, viendront d'autres objets majeurs, lancés par un autre cœur idéologiquement, militairement et culturellement plus dynamique, autour d'un autre projet. Avant que cela n'advienne, se produiront des événements innombrables, la plupart dans le droit fil de l'histoire. Le bel avenir de la 9e forme. Jamais la classe californienne n'a été aussi inventive, riche et prometteuse. Jamais le niveau de vie californien n'a été aussi élevé. Jamais les profits des grandes entreprises américaines n'ont atteint de tels sommets. Jamais l'innovation industrielle et financière américaine n'a été aussi triomphante. Jamais les États-Unis n'ont autant dominé le monde militairement, politiquement, économiquement, culturellement et même, dans une certaine mesure, démographiquement. Ils sont encore aujourd'hui le 3e pays le plus peuplé du monde et le resteront en 2040 avec quelque 420 millions d'habitants. De plus, aucun rival crédible ne s'annonce, ni en Europe, ni en Asie, ni ailleurs. Et aucun autre modèle de développement n'est même, semble-t-il, imaginable. En conséquence, au moins jusqu'en 2025, les gens les plus riches du monde et les principales banques centrales considéreront encore les États-Unis et le dollar comme les meilleurs refuges économiques, politiques et financiers. En particulier, la fiscalité américaine, en supprimant bientôt l'essentiel des droits de succession, attirera plus encore qu'elle ne le fait déjà les fortunes exotiques. Les universités américaines pourront aussi reconstituer sans cesse la classe créative du pays en recrutant certains des meilleurs étudiants du monde, qui y resteront ensuite pour créer. Los Angeles demeurera le centre culturel, technologique et industriel du pays. Washington, la capitale politique, et New York, la métropole financière. Les États-Unis garderont longtemps encore le contrôle des technologies de la défense, du transport des données, de la microélectronique, de l'énergie, des télécommunications, de l'aéronautique, des moteurs, des matériaux, des systèmes de guidage. Ils maintiendront durablement leur part dans la production mondiale. Leurs déficits continueront de fonctionner comme des machines à développer la consommation aux États-Unis et la production ailleurs. Au total, pendant les 2 prochaines décennies au moins, et même si la croissance américaine pourrait être provisoirement interrompue par des crises financières, des récessions ou par des conflits, l'essentiel des événements culturels, politiques, militaires esthétiques, moraux et sociaux de la planète accentuera encore la suprématie des États-Unis. Aussi longtemps qu'il sera possible de retarder les autres avenirs, dont il sera question plus loin, la croissance mondiale continuera au rythme moyen actuel de 4% l'an. En 2025, si l'on prolonge les tendances, ce qui ne donne qu'une très vague idée de l'avenir, même à 20 ans, le PIB mondial aura cru de 80% et le revenu moyen de chaque habitant de la planète de moitié. Une partie significative des plus pauvres seront entrés dans l'économie de marché comme travailleurs et comme consommateurs. Des produits adaptés à leur pouvoir d'achat, aliments, vêtements, logements, médicaments, motos, ordinateurs, téléphones, produits financiers seront commercialisés. Les émigrés financeront leur pays d'origine par le transfert de leur épargne. Le microcrédit, qui donne déjà accès au financement d'un outil de travail à plus de 100 millions des plus pauvres des entrepreneurs, s'étendra en 2025 au moins à 500 millions de chefs de famille. La micro-assurance permettra d'assurer aux familles les plus démunies une couverture sociale minimale. Même si en 2025, près de la moitié de la population du monde ne survivra encore qu'avec 2 dollars par jour, la part de la population mondiale participant à l'économie de marché et sachant lire et écrire aura notablement augmenté. Parallèlement, cette croissance économique étendra le champ de la démocratie. Aucun régime autoritaire n'a jamais résisté durablement à l'abondance. Les plus récents, du général Franco au général Suharto, du général Pinochet au général Marcos, se sont révélés incapables d'utiliser une forte croissance pour maintenir leur contrôle sur les classes moyennes. La plupart des pays qui ne sont pas encore des démocraties de marché, Chine, Corée du Nord, Birmanie, Vietnam, Pakistan, Iran même, pourraient le devenir. Des gouvernements, des institutions, des administrations, des appareils policiers et judiciaires y obéiront à des parlements élus et non plus à des partis uniques ou à des autorités théologiques. Pendant ces 2 prochaines décennies, l'Union européenne ne sera vraisemblablement rien de plus qu'un simple espace économique commun, élargi à l'ex-Yougoslavie, à la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et à l'Ukraine. Même si sa monnaie risque d'être de plus en plus utilisée de par le monde, l'Union ne réussira vraisemblablement pas à se doter d'institutions politiques, sociales et militaires intégrées. Il y faudra des menaces fortes contre sa sécurité, lesquelles ne seront perçues que plus tard, avec le déferlement de la 2e vague d'avenir dont il sera question plus loin. Faute d'une modernisation du système d'enseignement supérieur, d'une capacité à susciter l'innovation et à accueillir les étrangers, l'Union ne réussira toujours pas à réunir une classe créative nouvelle ni à récupérer ses chercheurs et ses entrepreneurs partis outre-Atlantique. Faute d'un dynamisme démographique suffisant, le remplacement des générations n'y sera plus assuré, en particulier en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et en Allemagne. Si on peut prolonger les tendances actuelles, l'Union ne représentera plus en 2025 que 15% du PIB mondial contre 20% aujourd'hui. Le PIB par habitant européen ne sera plus que de la moitié de celui d'un Américain, contre plus de 60% aujourd'hui. Ce qui se traduira aussi par un affaiblissement de la qualité des services publics, des transports à l'éducation, de la santé à la sécurité. Dans un affrontement entre Flandre et Wallonie, Bruxelles pourrait, après bien des péripéties, devenir un district fédéral européen sans rattachement national. Naturellement, un sursaut politique volontariste pourrait changer cette donne. 11 autres puissances économiques et politiques émergeront. Le Japon, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Indonésie, la Corée, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique. Je les nommerai plus loin les 11. Toutes seront dans 20 ou 25 ans des démocraties de marché ou en voie de l'être. En dessous, 20 autres pays à croissance forte souffriront encore de lacunes institutionnelles, dont l'Argentine, l'Iran, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, le Venezuela, le Kazakhstan, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria et l'Égypte. D'autres encore, de taille plus modeste, tels que l'Irlande, la Norvège, Dubaï, Singapour et Israël, joueront un rôle particulier. L'Asie dominera. Les deux tiers des échanges commerciaux du monde se feront à travers le Pacifique. Dans un peu plus de 20 ans, la production de l'Asie dépassera la moitié de celle du monde. Déjà, 13 des 20 plus grands ports de conteneurs sont situés en Asie, dont Shanghai, Hong Kong, Singapour, Nagoya au Japon, Busan en Corée, Kaohsiung à Taïwan, Dampier en Australie. Busan et Shanghai traitent déjà 90 porte-conteneurs à l'heure. D'immenses infrastructures portuaires et aéroportuaires y seront encore développées. La Chine sera la deuxième puissance économique du monde avec 1,35 milliard d'habitants en 2025. Au rythme actuel, son PIB dépassera celui du Japon en 2015 et celui des États-Unis en 2040. Sa part dans le PIB mondial, qui est aujourd'hui de 4,5%, passera à 7% en 2015 et avoisinera les 15% en 2025. Le niveau de vie moyen des Chinois devrait être, en 2015, égal à la moyenne mondiale, soit un cinquième de celui des Américains. En 2025, même si le rythme de croissance annuel de l'économie chinoise décroît de moitié, la Chine aura un revenu annuel par tête de 6 000 $. Des centaines de millions de Chinois seront alors entrés dans la classe moyenne et plusieurs dizaines de millions dans la bourgeoisie. La Chine aura alors encore un excédent de la balance des capitaux. Elle continuera à financer les déficits des États-Unis comme si les deux pays s'étaient durablement alliés pour maintenir la croissance mondiale à leur propre bénéfice en attendant de se sentir assez forts pour se battre l'un contre l'autre. La Chine deviendra le premier investisseur de la région, des Philippines au Cambodge, au détriment du Japon et des États-Unis. Les régions côtières chinoises, si elles sont capables de maîtriser les migrations rurales, deviendront même le lieu d'accueil d'une classe créative venue du monde entier, en particulier d'un retour de la diaspora chinoise. Le Parti communiste chinois sera de moins en moins capable d'organiser la vie urbaine. Il devra, dans chaque ville, laisser le pouvoir à des élus. Il ne réussira pas à régler, sans se réformer, les immenses difficultés actuelles. 90% des Chinois n'ont à ce jour ni retraite, ni assurance maladie. La moitié de la population urbaine et 4/5 de la population rurale n'ont pas accès à des soins médicaux. La moitié des 500 plus grandes villes du pays n'ont ni eau potable, ni système d'élimination des déchets. Le pays devra mettre en place une infrastructure urbaine, consolider la stabilité monétaire, lutter contre la corruption, assainir durablement les finances publiques, trouver du travail à des centaines de millions de paysans affluant vers les villes, réduire les écarts de revenus, améliorer le système éducatif, former beaucoup plus de cadres, réformer un secteur public obsolète, mettre en place un système juridique capable de protéger la propriété privée et intellectuelle. Autant de tâches pratiquement impossibles en régime de parti unique. Vers 2025, le Parti communiste, alors au pouvoir depuis 76 ans, aucun parti au monde n'est jamais resté au pouvoir plus de 70 ans, s'effacera d'une façon ou d'une autre. Un grand désordre régnera pendant un temps, comme ce fut si souvent le cas dans l'histoire de ce pays. Une nouvelle démocratie pourrait même surgir et ressembler à celle de 1912, dominée par des seigneurs de la guerre. Si le pays ne réussit pas alors à maintenir son unité, comme on ne peut l'exclure, il participera au mouvement général de déconstruction des nations dont il sera question au chapitre suivant. Pour durer, le parti pourrait aussi être tenté par une aventure vers l'extérieur, en envahissant Taïwan ou la Sibérie, comme on le verra aussi plus loin. Dans un scénario d'évolution linéaire, l'Inde devrait être en 2025 le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants et la troisième puissance économique derrière la Chine et les États-Unis. Sa croissance sera, à partir de 2010, supérieure à celle de la Chine. Mais son PIB par habitant restera inférieur à celui de son voisin en raison d'une croissance démographique supérieure. Nombre de ces entreprises, comme Tata, Infosys ou Mittal, seront parmi les plus grandes du monde. Pour que ce scénario se vérifie, il faudra que la démocratie indienne surmonte des défis majeurs, voisins de ceux de la Chine. Financer des infrastructures urbaines, trouver des sources d'énergie alternatives, construire des routes et des aéroports, assainir durablement les finances publiques, réduire les inégalités entre régions et classes sociales. Si le gouvernement central n'y parvient pas, la situation pourrait entraîner, comme en Chine, une désarticulation du pays. L'Inde n'est unie que depuis la colonisation britannique. Le Japon, lui, continuera de vieillir et de décliner en valeur relative malgré sa force économique qui en fera encore une des toutes premières puissances mondiales. À moins d'accueillir plus de 10 millions d'étrangers ou de réussir à relancer sa natalité, sa population diminuera, elle décroît déjà. Même s'il est exceptionnellement bien placé pour dominer les technologies de l'avenir, des robots aux nanotechnologies, le Japon ne réussira pas à faire de la liberté individuelle sa valeur dominante. Il nourrira de plus en plus un complexe d'encerclement par les armes de la Corée du Nord, par les produits de la Corée du Sud, par les investissements de la Chine. Il réagira certainement militairement, en se dotant de toutes les armes, y compris nucléaires, dans une stratégie de plus en plus défensive et protectionniste, ce qui pourrait lui coûter très cher économiquement. En 2025, il ne sera peut-être même plus la cinquième puissance économique mondiale. Parmi les autres 11, la Corée du Sud deviendra la première puissance d'Asie. Son PIB par habitant devrait doubler d'ici à 2025. Elle sera le nouveau modèle économique et culturel et impressionnera le monde par ses technologies et son dynamisme culturel. Le modèle coréen sera de plus en plus considéré en Chine, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, au Japon même, comme le modèle de réussite à imiter en lieu et place du modèle américain. La pérennité du succès coréen dépendra de sa capacité à se frayer un chemin entre deux scénarios catastrophes. Celui d'une réunification imposée par l'écroulement subit du régime nord-coréen, dont le coût économique serait insupportable, et celui d'une escalade militaire, peut-être nucléaire, provoquée par la fuite en avant du régime nord-coréen qui réduirait à néant plus d'un demi-siècle de miracles économiques au sud. Le Vietnam dépassera en 2025 les 115 millions d'habitants. S'il sait réformer son système politique, bancaire et scolaire, s'il sait mettre en place des infrastructures routières et lutter contre la corruption, il deviendra la troisième économie de l'Asie. Il en sera certainement un acteur majeur, attirant les investisseurs étrangers. L'Indonésie souffrira de problèmes quasi insolubles. Corruption, faiblesse du système éducatif, tensions ethniques considérables entre 100 nationalités. Si elle réussit à les surmonter, ce qui est peu probable, elle pourra devenir une grande puissance économique mondiale, en tout cas la première de l'islam, avec en 2025 270 millions d'habitants. Elle dispose pour cela de toutes les richesses naturelles, pétrole, gaz, or, argent, nickel, cuivre, bauxite. Le plus vraisemblable est que, comme l'Inde et la Chine, la croissance ne suffira pas à terme à calmer dans l'archipel les revendications séparatistes. L'Indonésie, comme la Chine, l'Inde et tant d'autres pays, pourraient un peu plus tard se rompre en dizaines d'entités plus petites. On y reviendra. La Russie pourrait retrouver un meilleur équilibre démographique et utiliser une partie de la rente pétrolière pour organiser son développement. devenu en 2006 le premier producteur d'or noir devant l'Arabie Saoudite avec 100 milliards de barils de réserve et le premier producteur de titane, son PIB devrait dépasser en 2025 celui de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la France pour en faire la sixième puissance économique mondiale. Elle aura, grâce aux réserves de devises accumulées avec le pétrole, les moyens d'acheter l'industrie de l'Europe de l'Ouest, ce qui lui coûterait moins cher que de moderniser ses propres usines. Le pétrole continuera de lui fournir la moitié de ses revenus fiscaux. Comme les autres 11, elle aura pour cela à mettre en place une infrastructure urbaine, un cadre juridique protégeant la propriété privée et la propriété intellectuelle, un système bancaire moderne et, surtout, à améliorer son système de santé. L'espérance de vie, descendue en 2006 à 59 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes, recommencera à croître. Sa population se stabilisera autour de 120 millions en 2025, contre 142 aujourd'hui. La Russie aura aussi, on y reviendra, à affronter de nouvelles menaces, musulmanes venues du Sud, chinoises venues de l'Est. En Amérique latine, deux puissances domineront vers 2025. Avec 130 millions d'habitants, le Mexique pourrait avoir un PIB supérieur à celui de la France. Ce pays aura cependant du mal à éviter une croissance désordonnée des villes, à surmonter une pollution majeure et une extrême inégalité entre classes sociales et groupes ethniques. Des révoltes politiques anti-américaines viendront ralentir sa croissance et pourraient remettre en cause son alliance avec les États-Unis. Le Brésil, avec 210 millions d'habitants en 2025, pourrait alors devenir la quatrième puissance économique du monde derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde et devant le Japon. En particulier, il deviendra un des géants de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Si l'on prolonge les tendances, ce qui, rappelons-le, ne donne qu'une très vague idée de l'avenir, même proche, son PIB dépassera celui de l'Italie dès 2025, puis celui de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Pour y parvenir, le Brésil devra, lui aussi, surmonter des défis qui paraissent aujourd'hui quasi insolubles. Mettre en place une infrastructure urbaine, construire un État solide et efficace, lutter contre la corruption, améliorer son système éducatif, réformer un secteur public obsolète, développer son industrie à l'exportation. À la différence des autres continents, l'Afrique ne réussira vraisemblablement pas à faire surgir une vaste classe moyenne, même si elle est en mesure de connaître une très forte croissance économique, largement compensée par une croissance démographique plus forte encore. En 2025, le continent comptera plus de 1,5 milliard d'habitants. Le Nigeria, le Congo et l'Éthiopie seront à ce moment parmi les 10 nations les plus peuplées du monde. Même si le sol africain renferme 80% du platine, 40% des diamants, plus d'un cinquième de l'or et du cobalt du monde, même si les forêts africaines regorgent de ressources et de richesses touristiques inexploitées, même si la Chine, l'Inde et d'autres puissances venant y quérir leurs matières premières aideront à y aménager des infrastructures à bas coût, le continent africain ne sera toujours pas un acteur économique d'importance mondiale. Les raisons en sont multiples. Le climat y rend difficile l'organisation du travail. Des bouleversements climatiques, dont on aura à reparler, entraîneront dans les régions semi-arides une baisse des récoltes de près de 20% et la destruction de surfaces cultivables dans les zones humides. La population active, réduite pendant des siècles par le trafic d'esclaves et aujourd'hui par le sida et d'autres pandémies, sera encore insuffisamment formée. Une nouvelle fois, les élites émigreront. L'essentiel du continent restera ravagé par les désordres politiques, par la corruption et les violences. De nombreux pays artificiels, comme le Nigeria ou le Congo, seront au bord de l'explosion. En 2025, le continent aura encore un PIB par habitant inférieur au quart de la moyenne mondiale. La moitié des Africains continueront de tenter de survivre avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Le nombre des mal nourris parmi les enfants pourrait atteindre les 41 millions. Seuls réussiront à s'en sortir quelques pays, comme l'Afrique du Sud, avec un PIB par tête qui dépassera celui de la Russie, l'Égypte, le Botswana et peut-être le Ghana. Les autres pays du continent seront menacés d'éclatement. Divisés, ils risquent de devenir des non-États. Enfin, la part du monde arabe dans le PIB mondial augmentera aussi, mais faiblement, plus par le jeu de la démographie que par croissance de la productivité. Faute de stabilité politique, de cadre législatif, de séparation du religieux et du laïc, de mise en œuvre des droits de l'homme et de la femme, le PIB par habitant n'y croîtra pas à la même vitesse que celui du reste du monde, hormis au Maghreb, où la réconciliation probable de l'Algérie et du Maroc créera les conditions de la mise en place d'un marché commun des pays riverains du sud-ouest de la Méditerranée et d'une coopération très prometteuse avec les pays de l'Europe du Sud. Tout à côté, Turquie et Iran seront en passe de devenir des puissances majeures. Au total, cette croissance mondiale persistante, la plus longue et la plus élevée dans l'histoire de l'humanité, s'accompagnera d'une formidable accélération dans la mise en œuvre de la globalisation et dans la marchandisation du temps.